ring. Mais le samedi soir, y a le petit bal et les filles. Je suis pas don Juan, mais je sais m'en trouver des gentilles. On se raconte ce qu'on fait dans la vie. Et c'est le seul instant où je ne suis pas hypocrite. Car on peut vraiment pas dire que ce soit rigolo. Car 8 heures par semaine, taper sur des tonneaux. À force de marteler, j'en deviens sourd comme un pot. La nuit, j'entends l'écho des martes sur les tonneaux. Je ne peux plus m'endormir car ça me donne des coliques. Mais un beau jour, je prendrai le pointeur électronique. Et je taperai dessus comme je fais pour mes barriques. Enfin, tout vous là, je ne serai vraiment plus hypocrite. J'arrêterai ma rage et en même temps, j'arrêterai mes coliques. J'irai en prison, comme ça, j'aurai une raison pour taper sur les flics. Et quand je sortirai de là, je jouerai du violon balto, du piano ou du flûte ou dans un orchestre symphonique.
La machine à laver à crédit, le mariage, les cadences de travail, les heures supplémentaires. Travail égale labeur, les bonnes manières, la propriété privée, l'assurance vie, les relations d'argent, les hiérarchies, l'autorité, la bonne situation, garder son rang, la télé, la vieille hégémonie de l'homme sur la femme, l'éducation des enfants, l'amour, propriété, une sexualité aussi propre que sommaire et pauvre. Changer nos conditions de vie, mais aussi tous les critères moraux et culturels, les valeurs, qui nous permettent, au prix de la maladie, de les accepter. Tout ce qui nous aliène, c'est-à-dire nous empêche de nous appartenir, d'être nous-mêmes. Tout ce qui nous oblige à ne pas réaliser nos désirs, à les refouler, à les réprimer nous-mêmes pour ne pas risquer que d'autres les répriment. Gendarmes, instituteurs, juges, prêtres, médecins et autres gardiens violents ou pédagogues, diversement persuasifs de l'ordre des choses établies. Le problème n'est pas que nous manquons de médecins, le problème est qu'il y a trop de malades, et ceci accuse.
Mais pas que tout le monde bouge, mais pas que tout le monde éclate, là où règne le silence. Certains font porter leur voix jusqu'au rempart du royaume. Où l'on n'adore que l'or. Vous tout là-haut dans vos bastions à gouverner cités et nations, ne voyez-vous pas qu'il est trop tard, qu'il est trop tard, qu'il est trop tard. Le monde se fera sans vous ou contre vous. Que le monde se fera sans vous ou contre vous. Ils nous disent les censeurs que les grèves ne sont que rêves. Les grévistes des rêveurs vivant quelques heures brèves. Que les vieilles réalités sauront bientôt les briser. Vous tout là-haut dans vos bastions à gouverner cités et nations, ne voyez-vous pas qu'il est trop tard, qu'il est trop tard, qu'il est trop tard. Que le monde se fera sans vous ou contre vous. Se fera sans vous ou contre vous. En d'autres temps, en d'autres lieux, des rêveurs de temps meilleurs se sont battus, souvent sont morts contre vos forces innombrables. On sait bien qu'il le faudra encore. De sang. Mais vous tout là-haut, dans vos bastions, à opprimer cités et nations, vous connaîtrez un jour l'heure où les rêveurs viendront pour vous demander raison de l'oppression. Viendront pour vous demander raison de l'oppression. Il est trop tard, oui bien trop tard, que le monde se fera sans vous ou contre vous.
Je savais qu'il voulait du pouvoir. J'apprends que ce pouvoir consiste à endiguer la vie, à l'étouffer, à l'empoisonner. Ce n'est pas seulement un pouvoir qui agit aux dépens de la vie, c'est un pouvoir qui agit contre elle. Et s'il nous enseigne à aduler le pouvoir sous ses formes les plus bigarrées, c'est pour nous détourner de ce qui le menace le plus, notre goût profond pour la vie. Ils ne veulent pas que la femme jouisse de son corps et de ses fabuleux pouvoirs. Ils lui apprennent à jouir de colifichets et du mâle pouvoir. Ils ne veulent pas que les travailleurs pensent au bonheur et le réinventent. Ils veulent que le travailleur travaille à leur pouvoir, qu'il travaille pour des jouissances dégradantes, abêtissantes, rétrécissantes et tuantes qui réconfortent leur pouvoir. Ils ne veulent pas que les enfants découvrent la joie intense de croître et de connaître. Ils veulent que les enfants apprennent à jouir d'automobiles miniatures et de bons points. Apprennent à ne pas croître et à peiner. Apprennent à entrer tout rôtis dans un pouvoir qui les a paralysés. Ils veulent que les vieillards crèvent, agonisent dans l'horreur et l'abandon. Ils veulent que les vieillards revenus du pouvoir pleurent de vivre. Ils veulent que toute vie encore soustraite à leur pouvoir soit un fardeau maudit.
Mon beau dragon, mon lance-flamme, mon tueur, mon bel assassin, ma jolie brute pour ces dames, mon amour, mon trancheur de sein, mon pointeur, mon incendiaire, en auras-tu assez brûlé des hommes torches et violé des jeunes filles impubères, broyeur de mort, lanceur de feu, rôtisseur de petits villages, mon bel envoyé du bon Dieu, mon archange, mon enfant sage, bardé de cuir, casqué de fer, fusilleur, honneur de ta race, que rien ne repousse où tu passes, mon soldat, mon fils de l'enfer, va dans tes bêtes mécaniques, écraser ceux qui sont chez eux, va de l'équateur au tropique, arracher le bonheur des yeux, va mon fils, va, tu civilises, et puis meurs, travail final, sur une terre jaune et grise, où nul ne te voulait de mal. Va mon fils, va, tu civilises, et puis meurs, travail final, sur une terre jaune et grise, où nul ne te voulait de mal.
Non, c'est pas une vie que d'être un homme. Parce que quand on est un homme, il faut être viril, et cela sans répit, car la moindre défaillance compromettrait le tout. Toujours occupé à réduire au silence la femme, les enfants, les employés, les voisins, mais aussi ses peurs et ses larmes, ses lâchetés et ses désirs, même lui, il faut qu'il en bave, et pas des moindres. Sans compter qu'ils s'obligent les uns les autres à un cinéma ininterrompu, harassant. Chacun sait qu'il n'est pas à la hauteur de la virilité exigée, qu'il fait semblant, qu'il parade. Mais il ne sait pas que tous les autres sont comme lui. Il pense que c'est sa honte à lui, sa misère particulière. Il croit toujours que les autres sont virils et que lui, il ne l'est pas vraiment, pas assez, pas encore. Et si ça se voyait, malheur ! Alors, ils mettent des épaulettes, roulent des mécaniques, dressent leurs fiers regards. Pas un employé de bureau qui ose désormais circuler sans son attaché caisse.
It's all right. It's all in. It's me. Ici Radio Pirate 101.
Un mardi, 8h, comme d'habitude. Mardi, 8h, comme d'habitude.
Mon nom est Tel, Guillaume Tel, synonyme de pureté. Je suis le bon, la sentinelle, le défenseur de l'exploité. Chaque fois que j'entends des voix crier à l'aide, à l'injustice, je jaillis du fin fond des bois avec mon arbalète et mon fils. Oh, on ne voyait plus dans nos villes des gens heureux comme au vieux temps, mais des policiers en civil et des gendarmes arrogants. Celui qui ne saluait pas bien bas, l'occupant abhorré, risquait le passage à tabac, l'amende, le procès truqué. Oh, déré, 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 là, déré, 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 déré,
déré, déré, déré, déré, déré, déré, déré, déré, déré, déré, déré, déré, déré, déré, déré, déré, déré, déré, déré, déré, déré, déré, déré, déré, déré, déré, déré, déré, déré, déré, déré, déré, déré,
Acorda, amor, eu tive um pesadelo agora. Sonhei que tinha gente lá fora batendo no portão. Que aflição, era dura. Numa muito escura viatura, minha nossa santa criatura. Chame, chame,
la police, chame, 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 chame ladrão, chame ladrão.
Acorda, amor.
Savez-vous qui elle est?
Não é mais pesadelo.
Elle se veut protectrice des honnêtes gens. Par l'esprit de servir, le dévouement et la solidarité, la police peut conseiller et aider son prochain en toutes circonstances. C'est la lettre de publicité pour devenir flic que le chef de police Varinsky a envoyée en septembre à plusieurs milliers de personnes. La société a besoin de flics. La société a de plus en plus besoin de flics. Des tout petits flics, des gros flics, des flics par milliers. C'est peut-être une solution au chômage. Allez, chômeur, deviens flic.
Se fica, non, sei non. Attention, non demora. Dia desse chega a sua hora. Não discuta à toa, não reclame, clame, chame lá, clame lá, chame, chame o ladrão, chame o ladrão, chame o ladrão.
Mais n'oublie pas, il n'a pas tout dit dans sa lettre, Varinsky. Il n'a pas parlé, par exemple, de la solidarité de la brigade anti-émeute avec leurs collègues fascistes espagnols. Solidarité qu'il a lui-même avouée après la manif antifranquiste de cet automne où la police matraquait aveuglément tous ceux qui bougeaient, blessés et passants y compris. Il n'a pas parlé de tous ces soi-disant fonctionnaires qui nous espionnent jour et nuit tranquillement, qui écoutent nos téléphones, pas ceux de M. Spinola, évidemment. De ces gens qui s'occupent des affaires louches, des filles de joie, des cabarets. Ça, c'est un véritable racket qui rapporte gros, au chef, évidemment.
Não gosto de samba, não vou a Ipanema. Não gosto de chuva, nem gosto de sol.
Il n'a pas parlé de vous, Guglielmetti, avec ta gueule de Shintok, Chapuis, Richard, Go, Metteura, Angèle. Vous qui avez des gueules de jeunes drogués, vous qui fumez du hashish sur les bancs publics pour foutre en taule tous ces jeunes. Varinsky, il n'a pas parlé dans sa lettre non plus des arrestations. C'est pas mal ça aussi. Les suspects sont passés à tabac avec des linges mouillés. Ça fait très mal et ça ne laisse aucune trace. Et puis c'est vrai qu'ils ne se plaignent pas souvent, ces clients. Ils ont la trouille, surtout les étrangers. Exemple, cet Espagnol qui, cet automne, a été arrêté pour tapage nocturne dans un bistrot et que trois flics ont roué de coups de pied dans le hall même de Carlock. Il y avait là un avocat qui a posé plainte contre les flics. Ça n'a rien donné, car l'Espagnol a eu peur et n'a pas voulu poursuivre les flics en justice. Des fois, il y a des blessés. Les flics sont alors emmerdés et ils étouffent l'affaire. Un jeune de la clairière s'est fait tabasser par les flics. Résultat, un tympan foutu. On n'en entend jamais parler de tout ça. Hein, Varinsky ? C'est tellement deg ce qui se passe à Carlvogt que certains flics honnêtes, il y en a aussi, ont donné leur démission, complètement écœurés. Il y a des choses encore plus graves, comme ce flic qui a assassiné une certaine nuit Patrick Moll. Il n'a chopé que 4 mois avec sursis au tribunal. Les flics, ils étouffent tout ce qu'ils veulent.
Dans la rue des bons enfants, on vend tout au plus offrant. Il y avait un commissariat et maintenant il n'est plus là. Une explosion fantastique n'en a pas laissé une brique. On crut que c'était Fantomas, mais c'était la lutte des classes.
Si jamais vous avez affaire aux flics, voici ce que vous devez faire au minimum. Pendant l'interrogatoire. Lors de l'interrogatoire par la police et par le juge, lorsqu'on est interrogé en tant que prévenu ou inculpé, la règle numéro 1 est qu'il ne faut rien dire. Il ne sert à rien de mentir, car les inspecteurs ont une longue expérience et une formation professionnelle pour tirer des vérités du plus beau mensonge. Dans les cas où plusieurs personnes sont en cause, ils peuvent exploiter le moindre recoupement. Il ne faut pas répondre oui ou non ou je ne sais pas, car ce sont déjà des réponses. Les seules réponses valables sont « cela ne vous regarde pas, je n'ai rien à dire ». La police use au cours d'interrogatoires de menaces diverses, du déshabillage, de gifles, etc. Elle n'en a évidemment pas le droit. La seule arme de défense est alors de refuser de signer le procès-verbal d'interrogatoire si les conditions dans lesquelles il s'est déroulé ne sont pas mentionnées. Dans tous les cas, ne signez qu'en majuscule, ne pas laisser une seule trace de son écriture habituelle à la police. Les flics utilisent les vieux trucs archi connus. Ton copain t'a déjà donné, regarde, voilà sa déposition. Le gag du gentil flic qui suit le méchant pour donner confiance. Si tu restes calme et cool, tu riras le dernier. Menace de porter plainte et sois prêt à vraiment le faire. Les flics ne tabassent pas tout le monde. Ils s'acharnent sur ceux qui ne savent pas se défendre, qui ne reconnaissent pas leurs droits, qui s'écrasent.
Ça doit pouvoir se faire de devenir gangster. Dans mon pays, les banques, ça n'est pas ça qui manque. Il y a de l'argent qui dort, tout plein les coffres forts, presque à portée de main. Suffit d'être malin. On trouverait deux ou trois copains comme toi et moi. On préparerait notre coup tranquillement chez nous. Pas besoin de chalumeau, de pinceau, de trousseau. En plein jour, on irait faire un rôle du pain vrai. On aurait repéré dans un quartier discret une petite agence. Il faut bien qu'on commence. Et puis un vendredi, en fin d'après-midi, quand les coffres sont pleins, on irait au turbin. La foule a sur le nez, une voiture volée, et vogue de la galère, tout le monde les mains en l'air. On dirait en entrant au banquier tout tremblant, ceci est un redupe, ne bouge pas où on bute. Qu'est-ce qu'on rigolerait avec nos pistolets, ah oh, naturellement, on n'est pas des brigands. Derrière son fichet, nous passerait la monnaie, qu'on entasserait en vrac au fond de notre sac. Quand il serait plein à mort, on en bourrait encore les poches de nos vestons et le fond de nos pantalons. On sortirait peinard jusque sur le trottoir. La voiture serait prête, toutes portes ouvertes. La frontière n'est pas loin, et puis tu conduis bien. On serait à l'étranger avant que rien n'ait bougé. Avec les flics d'ici, ça ne serait pas si difficile que ça. Il n'en reviendrait pas. On serait déjà planqué là-bas de l'autre côté. Ils en seraient encore à se dire, est-ce qu'on sort? Bon, salut, à demain, je te serre pas la main. Je suis pressé comme tu vois, mais surtout n'oublie pas que ça doit pouvoir se faire de devenir gangster. Dans mon pays, les banques, ça n'est pas ça qui manque.
Radio Pirate 101 qui vous parle. Les prisons, vous connaissez? Les prisons, vous connaissez? Ça commence à Karl Vogt. Après l'identification, un flic vous conduit au sous-sol à travers des couloirs flanqués de portes avec des grosses serrures et des plaques portant des numéros. C'est les violons. On arrive dans la cellule. Elles ont environ 2 mètres sur 2 et 2 mètres 20 de haut. Les murs sont d'un jaune pisseux. On dirait qu'ils les badigeonnent avec de la merde pour vous impressionner. Dans un coin, il y a une cuvette de WC dont la chasse d'eau est automatique et se déclenche sans cesse, nuit et jour. Ils vous mettent pieds nus et vous enlèvent vos ceintures, bijoux, montre, pour que vous ne vous pendiez pas. C'est du moins ce qu'ils disent. Il n'y a pas de fenêtre. Aux heures de repas, on vous amène une soupe, mais franchement dégueulasse. À éviter, c'est très mauvais pour la digestion. L'attente dans la cellule en deux interrogatoires est interminable. Et on est sous une forte tension, ne sachant pas ce qui va se passer. Après les différents interrogatoires à Karl Vogt, il y a deux solutions. Soit ils vous relâchent, ils appellent ça relaxer, soit ils vous mettent en préventive avec un mandat d'arrêt. S'ils vous prennent pour un individu dangereux, ils vous mettront même au secret, sans cigarette, sans lecture, sans rien du tout. Arrivé à Saint-Antoine, quel soulagement! Enfin, une douche, un bain, et il n'y a plus de merde sur les murs. L'intimidation est moins évidente, mais dès qu'on y reste plus d'une journée, on comprend vite que ce n'était qu'une apparence. Dès qu'on arrive en prison, on est immédiatement broyé par la lourde machine judiciaire. Ces juges, ces flics, ces matons, ces curés, ces médecins, ces assistants sociaux. Et tous les moyens sont utilisés pour vous couper de votre environnement, pour vous enlever tous les points de référence et de repère avec votre vie normale. C'est l'isolement, c'est perdre la notion du temps, parce qu'on n'a pas de montre. C'est ne pas voir dehors. Il n'y a pas assez de trous pour la lumière. C'est ne plus savoir où est le nord et le sud. C'est ne plus pas avoir d'informations par les journaux, etc. Puis c'est l'interminable attente, toujours dans cette incertitude du lendemain. C'est l'humiliation. C'est aussi les moments de diversion qu'ils organisent pour nous. Ces moments, les promenades. On marche en rond dans la cour et on peut tout juste parler à celui qui est derrière ou devant. Les livres et les journaux de la bibliothèque sont vraiment franchement débiles. Le courrier est censuré et les visites surveillées. C'est comme ça que tout le quotidien de la préventive est organisé juste au jugement. La préventive sert à nous casser. À chaque heure, on se demande combien on va attraper, quand est-ce qu'on pourra enfin sortir. La préventive, ça peut durer très longtemps, des années quelquefois. Ils utilisent le temps contre nous. Mais notre force, c'est de ne pas se culpabiliser. On n'a pas tort. On s'est révolté. On a raison.
Les chansons nous racontent que dans les vieilles prisons, à Nantes ou bien ailleurs, il y avait des prisonniers qui se la coulaient douce dans les filles des geôliers. Elles y venaient les voir tous les soirs au coucher, mais les chansons disent pas ce qu'elles leur y faisaient, ce qu'elles leur y faisaient, les filles des geôliers. «
Les temps bénis sont morts où c'était pas miracle, quand on était au lard de pouvoir bavarder avec des gardiens, même si c'était des chiens. Un gardien ou un chien, c'est quand même plus humain que des portes électriques, des camisoles chimiques. Que des portes électriques, des camisoles chimiques. À la place des filles, des geôliers, ils ont la poignée, la branlette sauvage, la masturbation jusqu'à devenir dingue. Pays, et c'est aussi le vôtre, où un gamin perdu a fleuri mais rogisse, pour un vol de bagnole se fait serrer la vis. La nuit serre tellement la vis qu'il n'en peut plus, un jour la coupe est pleine et on le retrouve pendu. Bon Dieu quel beau pays, bon Dieu quel beau pays.
Après le jugement, si vous avez pris plus de 3 mois, on vous envoie au pénitencier. À Bellechasse pour les primaires, à Bechu pour les récidivistes. Oh, vous n'y serez pas seul. Il y a en Suisse plus de 3000 prisonniers. Vous vous demandez ce qu'on y fait toute la journée? C'est simple, on y travaille. Vous me direz que c'est normal. Sauf que l'administration pénitentiaire a su exploiter les conditions spéciales des détenus, à son plus grand avantage, évidemment. Le mécanisme est tout simple. L'administration vend la force de travail des détenus à d'honnêtes entreprises privées. Je dis bien d'honnêtes entreprises privées. Pour un prix ridicule. La Migros et beaucoup de boîtes se font un maximum de fric sur le dos des détenus. Puis, la prison paye les détenus, 2 à 10 francs par jour, alors qu'ils triment 8 à 9 heures. Ça fait du 25 centimes à 1 franc de l'heure, suivant la quantité de travail. Puis, elle empoche le reste. Le travail est facultatif, paraît-il. Mais si on refuse d'y aller, on prend 10 jours de cachot. Toujours sans club, sans livre, sans quoi que ce soit.
Thank you.
l'administration pénitentiaire utilise aussi les prisonniers pour elle-même. Pour le nettoyage, les entretiens, les réparations, les bibliothèques, la cuisine. Savez-vous qui est Monsieur Pitet? Monsieur Pitet est le directeur de Bochum. Eh bien, sa piscine privée, c'est les détenus qu'il a lui-là. Ou alors, de ma belle chasse en 72, l'administration fait semblant d'utiliser les détenus pour construire un vestiaire pour ces derniers. Vestiaire qui, comme par hasard, n'a jamais existé, sauf sur les livres de compte, puisque les crédits ont été donnés. 17 000 francs. Où est passé cet argent? Cet argent a disparu dans la corruption pénitentiaire. Cette corruption a lieu à tous les niveaux, du maton au directeur. C'est contre cette répression quotidienne, contre la division extrême dans laquelle sont maintenus les détenus, qu'il est vital de résister, de s'organiser de façon autonome, d'imaginer sa propre subversion. C'est ce qui commence d'ailleurs à se passer depuis quelques années dans les prisons suisses. Les responsables de toute cette machine à réprimer commencent à s'affoler. Ils se mettent à lancer des appels au secours aux honnêtes citoyens. Directeur de Bellechasse est inquiet. Il déclare aux journaux.
Tout notre système pénitentiaire a été mis sur pied afin de réintégrer les détenus, d'en faire des hommes adaptés à notre société une fois leur peine accomplie. Mais comment voulez-vous réintégrer dans cette société des drogués qui ne la reconnaissent pas ou des contestataires qui, pour la plupart, veulent en construire une autre? Ces deux catégories représentent 50% des détenus. Les objecteurs de conscience et les drogués ne voulant pas être comme la majorité de la société, tout notre système éducatif s'écroule. Le travail a toujours joué à Bellechasse un rôle très important sur le plan de la rééducation et de la réintégration des détenus. Or, les drogués s'intéressent peu aux tâches qui leur sont proposées. Il est fort difficile de leur accorder des responsabilités ou de leur faire confiance. Il faudrait presque un gardien pour chacun d'eux.
Évidemment, à 25 centimes de l'heure.
Et beaucoup d'objecteurs de conscience sont des révoltés, qui ne veulent pas accepter notre société et ses règles. Ce sont eux qui veulent nous changer. Le seul point commun entre des jeunes détenus, c'est qu'ils sont convaincus d'avoir le bon droit pour eux et refusent de se culpabiliser. En outre, la plupart d'entre eux sont d'avis que le travail qu'ils peuvent accomplir dans le pénitencier n'est en aucune manière un facteur de réadaptation.
Ben voyons. Ah, pauvre monsieur Rentsch, les temps sont difficiles. Les honnêtes criminels d'antan qui voulaient payer leurs dettes envers la société, ça se voit de moins en moins. Et il paraîtrait qu'ils semblent croire, ces jeunes, que les vrais criminels sont ailleurs, à Berne, à Zurich, à Genève. Et que, en fait, ils n'ont fait qu'essayer maladroitement de reprendre un peu de ce qu'on leur a volé. Et ils se mettent ensemble pour faire des pétitions, des grèves de la faim. L'autre jour, un cambrioleur a dit à son juge, « La propriété, c'est le vol. » C'est la propriété qui est le vol.
Radio Pirate 101.